Ah, il fait partie du fan club. J'aimerais ce matin partager avec vous un texte dans l'évangile de Luc à partir du verset 1 du chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 1. Nous sommes dans cette période où le monde se rappelle que c'est Noël, même si cette fête a été pas mal détournée par tout ce qui est commerce, activité. Il y a des choses qui essayent par tout moyen et de venir enlever le vrai sens du Noël. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit se rappeler qu'est-ce qu'il représente Noël pour nous. Et j'aimerais lire avec vous ce texte de l'évangile de Luc qui nous ramène au moment de la naissance de Jésus. La parole de Dieu dit ceci: « En ce jour-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, et le mailleta et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu, en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui arrive, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui l'entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant, en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Amen. Quand on lit ce texte de la parole de Dieu, on voit bien qu'il y a un soin des détails qui nous ramène à des faits historiques, puisque encore aujourd'hui, certains considèrent que la venue de Jésus fait partie d'un folklore religieux, voire même d'une certaine volonté populaire de rapporter des histoires, mais qui n'ont pas de véracité, qui ne peuvent pas être vérifiées vis-à-vis de l'histoire. Or, là, les faits s'inscrivent dans un temps bien précis, dans un moment bien précis, et on a ce rapport qui nous est donné, des raisons qui vont faire que Joseph va être obligé de se déplacer avec Marie, alors qu'elle était prête d'accoucher, mais la loi imposait qu'ils se rendent dans la ville d'où ils étaient en effet venus. Et c'était Bethléem. C'est là que Joseph devait s'inscrire avec sa fiancée et le voyage n'a pas été des plus simples. La parole de Dieu nous dit que lorsque Joseph et Marie ont fait ce voyage, ils n'ont pas eu les problèmes de TGV qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas de grève des transports, il n'y avait pas de blocage au rond-point, mais la problématique s'est posée au moment où ils sont arrivés à Bethléem, puisque Marie attendait un enfant, et j'ose imaginer que ça ne devait pas être facile. Les femmes qui sont là présentes, elles doivent se dire comment elle a fait affaire à le voyage, à Dodane, alors qu'elle était prête d'accoucher. Peut-être que ça favorisait les choses. Peut-être qu'il faudrait tester, ça pourrait résoudre le problème des césariennes. Mais reste le fait que c'était certainement pas la meilleure manière de voyager. Mais pour eux, était la seule. Arrivé dans cette ville, le verset 7 nous dit qu'ils ne trouvèrent pas de place dans l'hôtellerie parce qu'il n'y avait pas de place. Si je considère les temps dans lesquels Jésus est né et je les ramène au temps d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence. Toujours plus de soif de pouvoir, toujours plus d'impôts, toujours plus de pression, toujours plus d'égoïsme, toujours plus de monde et moins de place. Et ce que Joseph et Marie ont entendu dire, pas de place, pas de place. Si un couple comme celui de Joseph et Marie devait frapper à notre porte, aurions-nous de la place? Et si en plus cette femme devait accoucher, aurions-nous de la place? Et si cet enfant à naître devait s'appeler Jésus, aurions-nous prévu une place pour lui? Personnellement, je crois non. Il n'y aura pas plus de place que celle qui leur a été réservée de ce temps-là. Et les raisons, elles sont simples, c'est que la population et la période dans laquelle nous vivons, elle est dans les mêmes oppressions spirituelles que celle du temps où Jésus est né. La réalité, c'est que le monde s'est enfermé et s'enferme sur lui-même, ne laissant pas de place à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Il est étonnant de dire qu'à ce temps-là, on puisse être aussi peut-être dur ou rigide au point de refuser une place à une femme qui attend un enfant. Mais aujourd'hui, vous savez, arrive même parfois, excusez-moi, et sans culpabiliser qui que ce soit et pointer du doigt qui que ce soit, qu'on aille à l'hôpital et qu'on nous dise « pas de place ». Tout est devenu enfermé et on a placé des règles humaines qui empêchent l'être humain, en réalité, de vivre quelque chose qui pourrait changer sa vie. Moi, j'aurais aimé avoir l'occasion de voir naître mes enfants. C'est une expérience que j'aurais aimé vivre. Ça n'a pas été possible. On m'a dit que ce n'était pas possible. C'est dur quand on a envie de vivre quelque chose et on nous dit non, ce n'est pas possible. C'est incroyable de se retrouver bloqué dans quelque chose qui nous empêche en réalité de vivre ce qu'on désire et au fond de nous-mêmes se dire il y a un truc que j'ai loupé. Alors, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Mais dans le cas du texte que nous lisons, nous voyons bien que pour Joseph et pour Marie, quand même, c'était particulier. D'autant plus que l'un et l'autre savaient qui était l'enfant à naître. Et entendre le monde dire « pas de place », ils auraient presque pu se dire « mais Dieu n'a pas prévu ». Il a bien préparé toutes choses et là, il n'a pas prévu. Il a préparé Marie, il a préparé Joseph, il a préparé même, je dirais, les raisons qui auraient conduit Joseph à devoir être à Bethléem, puisque la prophétie parlait d'une naissance à Bethléem. S'il n'y avait pas eu cette imposition légale, je ne pense pas que Joseph aurait pris l'âne, aurait pris Marie et aurait fait un tel voyage. Dans le raisonnement, il se serait dit « c'est pas sage ». C'est pas censé, c'est pas logique. Restons là et faisons là les choses. Mais Dieu sait comment nous conduire. Et je voudrais vous dire que quelle qu'elle soit la situation que vous vivez, même si vous avez le sentiment que quelque part Dieu est en train de louper un coche, c'est pas ainsi. Dieu sait exactement ce qu'il est en train de faire pour vous amener là où vous avez besoin de vivre quelque chose. Même, excusez-moi, si c'est dur. Même si c'est dur et compliqué. Je ne pense pas que Joseph était fier de ne pas pouvoir offrir à Marie le lieu convenable pour la naissance de son enfant. Je ne pense pas que c'était pour lui une raison de fierté de dire « voilà, j'ai le premier enfant qui naît, Et à quelque part, même si je n'ai rien à voir dans l'histoire, je n'ai rien fait à part que être celui qui conduit l'âne, mais néanmoins, cette femme, c'est mon épouse, ça sera la mère de mes enfants. Quelle est l'image qu'elle aura de moi en tant que futur père? Est-ce que j'ai su prendre soin d'elle? Or, dans le texte, nous voyons qu'il y a une réponse qui est celle du monde. Et ça nous amène, frères et sœurs, à réfléchir exactement aux choses. Dernièrement, il y a quelque temps, vous avez vu tout ce qui s'est fait autour de la naissance de l'enfant du couple royal en Angleterre. Vous avez vu ça? Il y a eu tellement de publicité. Ils sont arrivés à faire des paris, si c'était un garçon, si c'était une fille, s'il y aurait eu telle somme, s'il aurait été appelé comme si. Moi, je n'ai pas vu tout ça dans la Bible pour Jésus. Pourtant, c'est le roi des rois. L'hôpital a été choisi avec soin, les médecins ont été choisis avec soin, les infirmiers. Vous savez qu'en Angleterre, quand un enfant naît, c'est la famille qui paye pour que l'enfant soit lavé. Autrement, il n'est même pas lavé. Quand vous arrivez à l'hôpital, si vous n'amenez pas votre petite bassine et tout le reste, vous n'avez rien. Vous prenez l'enfant, vous l'enveloppez dans le papier et vous repartez. Ils ont un système sanitaire qui n'est pas le nôtre. Donc, nous ne nous plaignons pas de notre système sanitaire. Quand vous irez voir votre médecin, vous le remerciez, vous le bénissez. Amen. Et ne vous plaignez pas si l'attente elle est un peu longue. Dites-vous que vous êtes quand même mieux loti que d'autres qui ne sont pas trop loin d'ici. Une sœur qui avait dû amener sa fille à coucher, sa fille habitait en Angleterre, elle est revenue de ce voyage, elle était outrée. Et à partir de là, elle a eu une vision différente des choses. Et moi, je crois qu'il y a des moments où Dieu nous bouscule un peu pour nous faire voir les choses différemment. J'ai fait une recherche un peu dans la parole de Dieu, mais je pense que vous connaissez bien les choses, parce que je me suis dit, on peut comprendre qu'on dise « pas de place ». Et pourtant, il y avait quand même un homme, le prophète Ésaïe, fils d'Amo, qui avait fait quand même très fort dans les prévisions. N'est-ce pas? 600 ans avant la naissance de Jésus, il parlera en Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, de la venue du Sauveur. Alors la question est, est-ce que, puisque nous sommes avertis du retour de Christ, est-ce que notre cœur est prêt? Parce que ça serait facile de pointer du doigt et de dire les aubergistes du coin, ils n'ont pas fait leur travail. Il n'y avait pas, comment il s'appelle, TripAdvisor s'appelle comment pour faire les réservations dans les hôtels? Ah, s'il avait eu cette application, Joseph aurait été super, il aurait trouvé une place. Je suis étonné qu'ils n'ont pas pensé à ça pour faire une pub. Hein? Mais ça ne va pas tarder. Pourtant, ils étaient avertis, de la même manière que nous sommes avertis. Et la question est, si Jésus venait aujourd'hui, sommes-nous prêts? Avons-nous disposé nos cœurs? Ou, excusez-moi, nous sommes-nous aussi en train de dire aujourd'hui, pas de place, pas de temps, c'est pas le moment. Vous savez, on a tellement d'excuses, moi j'étais champion dans les excuses. J'en ai trouvé tellement pendant X temps jusqu'au moment où Dieu m'a poussé dans les retranchements et j'ai senti l'odeur de la mort pour ma vie. Et ce jour-là, j'ai dû crier à Dieu, dire « Seigneur, viens, s'il te plaît, aie miséricorde pour moi. Sauve mon âme. » Et quand il a sauvé mon âme, j'ai dit « Maintenant, il faut sauver aussi le gaillard qui va avec. » Parce que j'avais pris de mauvaises décisions, mauvaises directions. En disant que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas le temps, voire même, est-ce qu'il fallait vraiment prendre une telle décision? On vit parfois dans une illusion, on vit parfois dans un monde qui est le nôtre, et pourtant, regardez, Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6, dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Quel programme ! Imaginez qu'aujourd'hui, on ait en France un président de la République avec ses qualifications. Comment élirait la France ? Un Premier ministre qui soit tellement attaché à ses valeurs, comment ça irait la France ? Allô ? L'entreprise où vous travaillez, votre responsable, un homme ou une femme de Dieu, qui croit en Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui marche avec Dieu, comment ça irait votre entreprise ? Il y a des années de cela, je lisais le témoignage d'un homme qui s'est converti à l'Évangile et qui a donné son cœur au Seigneur. Et dès le départ, il a décidé d'appliquer la parole de Dieu à sa vie, mais aussi à son entreprise. Et ce jour-là, cet homme, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je donnerai pour Dieu 10% de tout ce que je gagnerai. Quelques années plus tard, il a dit, non, ce n'est pas suffisant, je donnerai 20%. Et cet homme, il engrangeait des contrats, il travaillait incroyablement. Et chaque année, le pourcentage augmentait jusqu'au point de dire, je vais donner 90% pour l'œuvre de Dieu, je garde le 10%. Il gagnait tellement qu'il n'arrivait même pas à dépenser le 10%. C'était le propriétaire de Caterpillar. Étonnant, hein ? Vous savez, ces gros engins, vous voyez, monstrueux ? Ben oui, c'est un homme qui a donné son cœur au Seigneur et qui a fait une expérience avec Dieu. Pas seulement de lui dire « je te donne ma vie », mais « je te donne tout ». Alors certes, on comprend bien que le Seigneur ne fait pas le salut de notre âme pour notre argent, il n'a pas besoin de nos sous, que ça soit clair. Mais c'est vrai que c'est aussi pour nous un moyen de montrer notre foi en Dieu en disant « Seigneur, je ne compte pas sur ce que j'ai, mais je compte sur ce que tu as ». C'est beaucoup mieux, hein ? Ah, je vois, des fois j'ai des discussions avec mon fils. Papa, on peut l'acheter. Papa, on peut l'acheter. On peut l'acheter. Je dis, mais tu sais, ton père, c'est pas Rothschild. Hein. Je dis, moi, j'ai un compte limité. On va pas pouvoir. Puis petit, il voyait une chose. Papa, tu peux l'acheter. C'était ça son mot. Tu peux l'acheter. Ou si sa mère, elle voyait quelque chose. Maman, je vais te l'acheter. Je vais te l'acheter. Alors, je vous dis pas la quantité de maisons, de voitures, tout ce que vous voulez. Lui, tout ce que sa mère voyait. Je vais te l'acheter. C'est beau ça. Mais après se tourner vers moi, je dis, moi je ne peux pas hacher. Hein. Je disais à ma femme, tu peux raser la dette là. Oublie. Mais quand on met notre vie entre les mains de Dieu, est-ce qu'il y a encore des parties de notre vie auxquelles on dit à Dieu, pas de place ? Dans notre vie de couple, Seigneur, pas de place. Tu te mêles pas de ça. Seigneur, dans ma vie sentimentale, pas de place. C'est moi qui décide. Seigneur, dans mon travail, pas de place. Attends, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et je vais y arriver. Vous savez, on se lance dans des... Un jour, je vous raconterai toutes les fois, je me suis lancé, je me suis ramassé. Parce qu'en général, c'est comme ça. On se lance, mais sans parachute. Paf! Parfois, pas de place, même pour notre vie personnelle avec Dieu, notre temps d'étude, de lecture, de prière, pas de place, pas de temps. Est-ce qu'il y a encore des endroits dans notre vie, dans notre existence, où il n'y a pas la place pour le Seigneur ? En lisant ce texte, je me suis rendu compte qu'encore aujourd'hui, malheureusement, nous aussi, parfois, on utilise de tels propos. Et donc, on ne peut pas pointer du doigt à ce peuple qui était là. Or, dans le texte, nous voyons que le temps était arrivé. Je me rappelle qu'à chaque fois que ma femme, elle arrivait à son terme, elle disait vivement que ça soit réglé. Pour le dernier, on ne pouvait plus. Je crois qu'une ou deux fois, elle m'a dit « Fais quelque chose, je fasse quoi ?» Alors le dernier... Encore une fois, j'aurais voulu pouvoir le voir naître, ça n'a pas été possible, mais j'étais aux premières lignes, derrière la porte, comme pour les deux autres. Mais là, on m'a dit, monsieur, c'est vous qui allez lui faire le premier bain. Je dis, super, magnifique. Alors, je suis arrivé habillé en cravate, costard. Il dit, mais vous partez après? J'ai dit, non, non. Mais pourquoi vous êtes si bien habillé? J'ai dit, c'est mon fils qui vient au monde. Quelle joie de pouvoir prendre soin de mon bébé. 4 kg 330. 52 cm, c'est ça? Hein? 55, j'avais oublié 3 cm, c'est... Et la fierté de me promener dans le hall avec lui, dans son petit couffin, où les gens me disaient, waouh, il est un peu vieux celui-là. Je dis, non, non, il vient de naître, il vient de sortir d'usine. Alors vous imaginez la fierté de Dieu le Père de donner son fils au monde, mais en même temps, la tristesse de voir comment on l'a accueilli. Pourtant, Dieu sait se réjouir et il sait trouver des cœurs qui sont encore disposés et disponibles à être surpris par la bonté de Dieu. Et d'ailleurs, il choisira des bergers. Or, vous savez, les bergers n'étaient pas forcément bien vus. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, les bergers n'étaient pas aimés. Quand Joseph s'est retrouvé premier ministre d'Égypte et qui... Finalement, ses frères sont venus, et vous connaissez l'histoire, si ce n'est pas le cas, lisez-la, elle est super. Un jour, on va s'arrêter sur les vallées de Joseph. C'est très beau. Il y a plein de choses à dire. Mais au moment où finalement Joseph fera venir son père en Égypte avec sa famille, ils ne pourront pas habiter dans le même lieu que Joseph parce que c'était des bergers. Et les Égyptiens, alors, ils avaient horreur des bergers. Mais même au temps là, de la naissance de Jésus, même à Bethléem, les bergers n'étaient pas bien vus. Et pourtant, c'est à eux que Dieu enverra ses anges pour leur annoncer la naissance du Sauveur. En effet, c'est à ceux que le monde ne voit pas bien, n'aime pas, ne respecte pas, que souvent la parole de Dieu est adressée, ainsi que la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu. Si on faisait une analyse, on a vécu nous aussi, à un moment ou à un autre, le fait de nous entendre dire qu'on n'est pas les bien reçus. Il n'y avait pas de place pour nous non plus. Mais le Seigneur nous a fait une place dans le ciel. Amen. Dans la mesure où nous faisons aussi une place au Seigneur dans notre cœur. Le texte nous invite à cette lecture et à ce moment où les anges vont louer Dieu. Une fois donné le message, alors vous comprenez bien que les bergers, cette nuit-là, ils ne s'attendaient pas du tout à voir un ange qui vient leur parler en leur disant « Et aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, un seigneur. » Il dit « Attends, je ne suis pas premier ministre, je ne suis rien. » Et vous regardez dans la parole, dans la prophétie qu'il leur est donnée, il y a un signe bien précis, une direction bien claire. Il leur dira « Vous allez à tel endroit et vous verrez ceci, vous verrez cela. » Et la parole de Dieu nous dit que dès qu'ils ont reçu, ils sont partis. Que faisons-nous quand nous recevons la parole de Dieu? Est-ce que nous aussi, on est dans cette attitude d'entendre et de vivre? Ou est-ce qu'on s'inquiète de tout ce qui est autour de nous? Ils auraient pu s'inquiéter de leur brebis. Ils auraient pu s'inquiéter de ce que peut-être le propriétaire des brebis aurait pensé. Ils auraient pu s'inquiéter de tout ce que le monde aurait pu faire, ou même les loups qui auraient pu venir manger leurs brebis. Mais quel a été pour eux le centre d'intérêt? La chose la plus importante dans leur vie, si ce n'était de rencontrer le Sauveur. Est-ce que rencontrer Jésus, est-ce que c'est notre première inquiétude? Est-ce que aimer le Seigneur, est-ce que c'est notre premier désir? Ils sont allés non pas seulement pour voir, mais ils sont allés pour l'adorer. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, est-ce que nous venons pour adorer le Seigneur ou juste pour passer un moment ensemble? Si c'est pour ça, excusez-moi, on peut se voir n'importe où, n'importe à quel moment, il n'y a pas de souci. Mais si nous sommes là, c'est pour adorer Jésus. Alors je vous invite à ne pas rester, excusez-moi, le cœur et la bouche fermés. Mais répandez votre adoration à Dieu. Et ne vous laissez pas convaincre que vous n'êtes pas les mieux qualifiés pour le faire. Ne vous laissez pas convaincre par l'ennemi que vous n'avez rien à dire à Dieu. Mais dites-vous que Christ, c'est à vous qui est venu se révéler, parce qu'il vous aime. Et qu'il veut une place de choix dans votre vie personnelle. Je lisais ce texte et j'étais interpellé par la phrase du verset 14 qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Alors je suis allé un peu rechercher dans les textes différents et je me suis aperçu que dans certains textes, anciennes formulations, il est écrit « bonne volonté envers les hommes » et dans d'autres « hommes de bonne volonté ». Je dirais que la première est basée sur un texte inexact et la dernière c'est reflet une mauvaise interprétation théologique car en réalité c'est la paix de Dieu n'est pas accordée aux hommes parce qu'ils la méritent mais à ceux qui ne la méritent pas et qui l'a librement et dans sa bienveillance choisi de bénir. La paix de Dieu est pour ceux que Dieu a choisis. La paix de Dieu est le message de la grâce et pour ceux que Dieu a voulu saisir dans leur cœur, dans leur vie. Alors Dieu veut le salut de tous les hommes. Et il nous aime tous. Mais tous n'aiment pas Dieu. C'est pour cela qu'à un certain moment, on voit la réaction et l'action dans la naissance et dans ce moment de la naissance de Jésus. Certains vont l'accueillir avec joie, mais il y en a d'autres qui vont être très attristés, même voire en colère. Au point de tuer tous les enfants pour éviter que ce sauveur, ce roi, prenne une place. Le monde encore aujourd'hui essaye d'enlever l'image de Christ. Aujourd'hui, on ne parle plus de la naissance de Jésus, excusez-moi, on parle d'un homme qui descend dans une conduite de cheminée. Non ? On a le sentiment qu'en effet, c'est lui, l'Esprit, et regardez la quantité de films et de tout ce que vous voulez qui passe à la télé. Vous avez vu combien de films sur la naissance de Jésus cette année? Zéro. J'ai fait exprès de regarder. Et plus le temps passe, moins on en parle. Tout tourne autour de quelqu'un d'autre pour enlever ce qui revient à Dieu. Quelle est la place que nous nous donnons au Seigneur? Avec ça, je ne vous dis pas de briser tous les... Le truc, ce n'est pas de sortir faire des histoires avec les uns et les autres. Hein. Vous savez, le Seigneur s'en chargera lui-même. Hein. Il n'a pas besoin de nous pour le défendre. Hein. Je me rappelle, en Italie, il y a eu un moment où beaucoup mettaient ces Pères Noël suspendus sur les balcons. Comme ça se fait aussi ici. Sauf qu'il y a eu un ensemble de personnes qui ont saisi cette occasion pour s'habiller en Père Noël et descendre dans les maisons et tout dévaliser. Puisqu'en les voyant sur les balcons, personne ne disait rien. Ah ben, je peux vous dire qu'ils les ont vite retirés du marché dans le coin. Hein. Moi, je crois que Dieu sait comment on doit régler certains problèmes. Il n'a pas besoin de moi pour les régler. Par contre, ce que Dieu désire, c'est que je règle mon propre problème. Quelle est la place que vous avez donnée au Seigneur? Est-ce que cette année, le Seigneur a eu toute la place qu'il fallait dans votre cœur, dans votre vie? Le texte nous dit que Marie, verset 19, Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant, en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Alors, quelque chose de très rapide. Premièrement, repassons dans notre cœur tout ce que la parole de Dieu nous dit. Gardons le véritable sens de la naissance de Christ et le but de sa venue. Deuxièmement, comme les bergers sont retournés glorifiant et louant Dieu, que notre marche, frères et sœurs, après cette rencontre merveilleuse avec le Christ, soit la même. Que nous soyons un peuple qui loue Dieu, qui se réjouit, qui glorifie le nom de l'Éternel, parce que seulement on a entendu et on a vu, mais c'est conforme à ce que la parole de Dieu nous dit. Et conformément à ce que la parole de Dieu nous dit, il est question pour nous maintenant, frères et sœurs, puisque la naissance s'est faite, d'attendre son retour. Un jour, Billy Graham, alors qu'il prêchait dans un stade, il a utilisé cette formulation, ça m'a percuté. Il disait, si dans 5 secondes Jésus revenait, êtes-vous prêts? Et il a commencé à compter 5, 4, 3, 2, 1, fini. C'est court 5 secondes. n'est-ce pas? Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que j'ai le temps de faire en 5 secondes? Et encore, si je suis averti, ça va, 5 secondes, c'est long. Est-ce que le Seigneur pourra en réalité dire, tu m'as donné toute la place? J'ai eu toute la place dans ta vie. Certes, notre cœur, frères et sœurs, et moi je parle du mien, hein, premièrement, quand le Seigneur est venu, c'était un étable, un vrai étable. Mais sa présence a changé ma vie. Et encore aujourd'hui, je vous assure, je dis, Seigneur, comment t'as fait accepter de venir dans un cœur comme le mien? Ça sentait pas bon. C'était pas beau à voir. Combien d'entre vous sont déjà allés dans un étable? Allô, levez la main, n'ayez pas peur, il n'y a pas de piège. Ça sentait bon? Ça sentait bon? Vous serez imaginé un instant d'amener votre épouse à coucher à... Ah là, je peux vous dire que c'est... Je pense qu'à midi, il n'y aura pas de repas. Vous dites ça, chérie, je t'ai trouvé un endroit, c'est magnifique. Ça, c'est du direct. Hein. Il dit, toi, si tu veux, mais moi, je n'ai pas été élevé avec les cochons. Notre cœur, souvent, est une porcherie, excusez-moi. Mais Seigneur, s'il y rentre, ce n'est pas pour cohabiter. C'est pour nettoyer. Transformer. Changer. Et pour cela, il faut dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Peut-être qu'encore pour quelqu'un ce matin, il est temps de dire, Seigneur, jusque-là, je ne te dis pas de place. Mais là, Seigneur, je désire te donner mon cœur, te donner ma vie. Prends toute la place dans mon cœur, dans ma vie. Vous savez, parfois, Dieu fait grâce en permettant à quelqu'un, à quelques minutes de la fin de sa vie, de donner son cœur au Seigneur. Et moi, je me dis, Seigneur, quel amour et quelle bonté. Quelle patience. Je me rappelle d'une sœur qui pleurait parce que son papa n'était pas converti et qui, pendant des années, elle a prié pour son père. Et un dimanche matin, elle vient me voir et me dit, écoute, papa, il est en train de mourir. Elle dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, j'ai dit, écoute, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il nous donne une fenêtre de tir. Il était un peu dans une forme de coma, pas moyen de discuter avec lui. Et on a fait le culte ce dimanche matin et je vous laisse imaginer comment son cœur était serré. Et à la fin du culte, on est parti à l'hôpital, on est arrivé à l'hôpital et le papy était là allongé après tant et tant d'années de souffrance et de douleur. Et je lui prends la main et je lui dis, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez Jésus dans votre vie? Si c'est le cas, serrez ma main. Et on l'a bien vu, il a serré deux fois pour être sûr. On a prié avec lui. Ce jour-là, il a donné son cœur au Seigneur. Le Seigneur lui a donné encore quelques mois de vie. Notre sœur a pu encore profiter de discuter avec son papa. Et son beau-père et son beau-fils, il me disait, mais c'est pas juste, c'est pas normal. Moi, ça fait des années que j'essaie de lui parler. Et toi, t'arrives, paf, pouf. Je lui dis, mais toi, tu l'as fatigué. Moi, je suis arrivé au bon moment. Alors vous savez, le but, ce n'est pas de fatiguer les gens. C'est d'arriver au bon moment. Et le bon moment, c'est celui que Dieu connaît. Et ça nous rappelle, nous aussi, qu'il y a un moment que nous ne maîtrisons pas et qui peut être à tout instant le moment où le Seigneur nous dit maintenant, tu rentres à la maison. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que quelqu'un ce matin voudrait dire au Seigneur, je te donne mon cœur? Je voudrais vous inviter à fermer les yeux, s'il vous plaît. Et j'aimerais ce matin faire un appel, tout simplement pour donner l'occasion, alors que le Seigneur lui-même frappe à la porte de votre cœur. Ce n'est ni Marie ni Joseph. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire au moment venu. Mais c'est Jésus qui frappe à la porte du cœur. Est-ce que ce matin, quelqu'un est prêt à dire, Seigneur, rentre. Mon cœur est à ta disposition. Je veux te donner ma vie. Ou est-ce que vous dites encore au Seigneur, pas de place? J'espère que chacun analyse bien l'occasion qui lui est donnée. Est-ce que quelqu'un voudrait aujourd'hui dire au Seigneur, je te donne mon cœur? Alors je vous invite à lever votre main et nous allons prier ensemble. Faire ce pas, c'est un pas personnel. C'est un choix personnel. Si quelqu'un voulait aujourd'hui dire au Seigneur, je te donne ma vie, qu'il lève sa main et on va le faire ensemble, on va prier. Oui, j'ai vu votre main, j'ai vu vos mains, oui. J'ai vu ta main. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, encore aujourd'hui, tu es celui qui frappe à la porte des cœurs. Ta parole nous dit que tu frappes. Et si quelqu'un entend ta voix et que ouvre sa porte, tu rentreras et tu souperas avec lui. Le repas est un signe de paix, est un signe de réconciliation. Et ta volonté, c'est de nous réconcilier avec le Père. Tu as vu les mains qui se sont levées dans un désir de trouver cette paix, cette réconciliation, ce pardon, cette grâce. Seigneur, merci. Merci parce que tu acceptes encore aujourd'hui, Seigneur, de venir dans des cœurs qui ont besoin, profondément besoin, d'être éclairé, d'être nettoyé. Seigneur, tu le fais avec un amour immense, Seigneur. Tu n'es pas là pour nous reprocher. Tu n'es pas là, Seigneur, pour nous écraser. Mais tu es là, Seigneur, pour mettre cette joie dans notre cœur qui nous permet, Seigneur, de rentrer chez nous, Seigneur, autrement. En ayant vu le Sauveur, en ayant rencontré le Seigneur. Seigneur, que tu puisses, dès à présent, par ton Esprit Saint, rentrer dans les cœurs, Seigneur, qui ont pris cette décision aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses prendre toute la place et que tu puisses mettre en eux une joie profonde. Seigneur, tu connais le cœur encore de chacun ce matin. Et si c'est pour certains, il y a besoin de conversion, peut-être pour d'autres, il y a besoin véritablement de réengagement. Seigneur, de te donner la place qui te revient. Est-ce que quelqu'un ce matin aurait besoin de se réengager avec Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De dire, Seigneur, plus jamais je te dirai que cette pièce ne t'appartient pas. Plus, Seigneur, jamais je te dirai que cette partie de ma vie ne te concerne pas. Alléluia, Jésus. Seigneur, plus que les mains levées, tu vois les cœurs, Seigneur, ce matin. Seigneur, notre vie, elle est à toi. À la croix, tu n'as pas payé au prorata, tu as tout donné. Et de la même manière, Seigneur, nous voulons tout te donner. Seigneur, que la décision qui a été prise soit scellée, Seigneur, par le sceau divin et par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, que le Saint-Esprit ranime le feu, embrase les cœurs, Seigneur. Seigneur, redonne le premier amour. Seigneur, pour que nous ne soyons pas trouvés tièdes, car ta parole dit que les tièdes seront vomis, Seigneur. Mais que nous soyons trouvés bouillants, Seigneur, pour ton nom, pour ta gloire. Merci, ô Éternel, de nous avoir donné un Sauveur merveilleux, quelqu'un d'admirable, un consolateur, quelqu'un de parfait, de digne, de confiance, digne d'amour, digne de louange. Seigneur, que ton nom soit loué et adoré, non pas seulement à Noël, mais tous les jours de notre vie. Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.